Bonjour Christian Moreau, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable d'un service d'urbanisme au sein d'une agglomération en Île-de-France. Donc, on est content de nous avoir avec vous, avec nous, pour parler urbanisme écologique. Alors, peut-être avant de commencer, pourriez-vous vous présenter un petit peu votre parcours, ce que vous avez fait?
Donc, je suis géographe de formation. J'ai travaillé. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé plutôt dans le domaine du développement local. Mmh. Et puis, depuis quelques années, j'ai travaillé dans plusieurs collectivités au sein de services d'urbanisme, quoi, pour faire des projets d'aménagement et pour faire aussi ce qu'on appelle de l'urbanisme réglementaire. Mmh. Voilà, donc la délivrance des permis de construire pour simplifier pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément l'organisation administrative française. Mmh, mmh.
J'imagine que dans la plupart des grandes villes, les services d'urbanisme ont le même rôle, mais enfin c'est un rôle en évolution puisqu'on recherche de plus en plus aujourd'hui un développement durable, même dans les pays occidentaux. Si c'était un terme qui s'appliquait aux pays du tiers-monde autrefois, c'est fini ce temps-là, je pense. On recherche une nouvelle façon d'appréhender le rapport de l'urbain à la nature, finalement. Est-ce que ça change dans vos fonctions?
Je dirais que c'est une réponse à moduler parce que, en fait, l'État a confié la compétence urbanisme. Donc avec les lois de décentralisation de 1982, aux communes. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, chaque commune mène sa politique en matière d'urbanisme et on n'a pas forcément une politique uniforme sur tout le territoire. Donc l'urbanisme qui tient compte de l'environnement va être variable en fonction de la sensibilité des élus, des équipes municipales. Donc, des villes comme Paris sont plutôt partie prenante dans cette démarche-là, mm-hmm. mais toutes n'ont pas cette approche, quoi.
Voilà. D'accord, donc il n'y a pas un cadre politique, juridique supérieur ou supra, je dirais, territorial qui demanderait que l'on s'inspire de cette démarche d'urbanisme écologique à plus grande échelle.
Alors il y a quand même un certain nombre de choses qui sont de lois qui ont été votées. Il y a un code de l'environnement que toutes les collectivités doivent respecter, donc ça va être surtout avoir un impact sur la phase amont des projets, donc il y a une obligation de faire des études, d'en évaluer l'impact sur l'environnement. Mm-hmm. C'est une politique qui est obligatoire sur les procédures, mais sur les objectifs, entre guillemets, qui est plutôt incitative. C'est-à-dire que on ne va pas obliger les collectivités à développer les pistes cyclables ou à faire de l'énergie solaire, par exemple. Donc là, c'est chaque collectivité qui définit ses objectifs, mmh. et ensuite, elle doit prendre en compte des procédures, mmh. qui lui imposent notamment de faire des études d'impact, par exemple, donc pour évaluer les effets de ces projets sur l'environnement et aussi de démontrer comment on va compenser ou pallier aux effets éventuellement négatifs que peut avoir le projet sur l'environnement. Le foncier aussi devient plus cher, donc la façon de construire évolue. Dans les années 70, les gens achetaient un terrain de 1000 m² pour y construire un pavillon. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus acheter un terrain de 1000 m² et ils achètent plus souvent un terrain de 400 ou 250 m² mm-hmm. pour construire un maison. Et aussi, beaucoup de gens achètent aussi des appartements. Alors là, la chose est aussi différente du Canada, puisque les règles de construction, les procédures sont beaucoup plus sécurisées qu'au Canada. Mmh. Et en général, les gens ne rencontrent pas de difficultés dans le fonctionnement des copropriétés. Ça peut se servir parfois dans certains condominiums au Canada.
Oui.
C'est un mode d'habitat qui est beaucoup plus facilement maîtrisé et intégré par les habitants en France. Donc là, en fait, ce qui fait évoluer vraiment la démarche, mm-hmm. c'est la prise de conscience du réchauffement climatique. Mm-hmm. Donc là, les acteurs s'y mettent assez facilement. Et puis l'autre élément qui est quand même plus une contrainte économique, c'est le coût de l'énergie. Mm-hmm. Et donc là, les gens en fait ont pris conscience qu'il fallait améliorer les performances de l'habitat mm-hmm. pour donc consommer moins d'énergie. Mm-hmm. Et l'État
là, ah, a obligé... J'entends pas très bien. Vous pouvez essayer de parler plus fort.
L'État a essayé L'État a mis en place une politique,
oui.
Donc qui fonctionne par palier, mm-hmm. donc avec une réglementation thermique mm-hmm. qui devient de plus en plus exigeante à l'image de ce qui s'est fait en Allemagne. Quoi. Donc c'est mm-hmm. l'Allemagne qui a été l'exemple. Mm-hmm. Et donc là. Les logements visent donc non pas le zéro énergie parce que c'est encore un petit peu compliqué mm-hmm. entre guillemets mais visent des performances de 50 kW par mètre carré par an de consommation d'énergie quoi. Mm-hmm. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui encore en France. Mais progressivement, les choses s'améliorent en la matière. La réglementation a été adaptée pour atteindre cet objectif donc à moyen terme.
Et là, on parle de bâtiments. Mm-hmm. Est-ce qu'on parle de bâtiments publics ou de bâtis de résidences privées aussi puisque...
Alors là, on parle de tous les bâtiments.
D'accord.
Donc, la réglementation thermique, elle s'applique pour toutes les constructions neuves. Et après, il y a aussi des dispositions qui s'appliquent pour l'habitat existant. Mm-hmm. Donc, par exemple, quand quelqu'un veut faire un agrandissement de sa maison, va faire un bilan thermique, mm-hmm. donc un diagnostic, et il doit expliquer, donc pour obtenir son permis de construire, comment il va améliorer la performance énergétique de son logement.
D'accord, donc c'est ça c'est obligatoire même pour une résidence privée.
C'est obligatoire pour une résidence privée.
D'accord.
Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les acteurs institutionnels comme les promoteurs, par exemple, jouent le jeu, quoi. Ils ont compris l'intérêt de faire des logements moins gourmands en énergie.
Mais de toute façon, c'est vraiment une priorité là pour notre début de siècle de réduire la dépendance aux énergies fossiles, puisque de toute façon, à l'horizon quoi, ouais. 2050, c'est fini. Donc il faut quand même se tourner soit vers le solaire, soit vers, ce qu'ils appellent, c'est la bioclimatisation, non c'est
ça? Alors, en France, on appelle ça la biomasse. Donc,
biomasse, oui.
Utiliser en fait le mode d'énergie bois, mm-hmm. qui se développe dans un certain nombre d'endroits. Donc depuis quelques années, beaucoup de logements ont été adaptés au chauffage bois, mm-hmm. Qui est intéressant puisque c'est une énergie de proximité en fait.
D'accord.
Donc on peut trouver du bois, on peut acheter le bois donc pas très loin de chez qui est pas très loin de chez soi. Mm-hmm. Alors ça c'est plutôt en milieu rural, mm-hmm. hein, puisque en ville ça reste plus difficile d'avoir du chauffage au bois pour des questions de fourniture. Il y a des collectivités qui s'y mettent aussi, c'est-à-dire qu'on a des chaudières bois, mm-hmm. avec des systèmes intéressants donc de pellets. Donc mm-hmm. on a des chaudières moins de contraintes que des poêles à bois, par exemple, mm-hmm. donc et qui peuvent apporter de bonnes performances en matière de chauffage pour des équipements publics. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre élément qui commence à se développer en milieu urbain, c'est d'utiliser l'énergie des centrales data pour chauffer les logements.
Les centrales.
Les équipements publics. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc les centres informatiques de données, soit des banques, soit des fournisseurs d'accès,
oui.
donc qui consomment énormément d'énergie,
oui.
énormément, mm-hmm. et qui ont besoin d'être froides. Donc là, la réflexion se fait pour récupérer cette chaleur-là, mm-hmm. et la renvoyer dans le... vers les logements sous forme de chaleur.
Mais est-ce que ce sont les entreprises elles-mêmes qui doivent contribuer à ces efforts, ou bien c'est une réflexion là un petit peu indépendante de n'importe qui, entre guillemets, qui a la capacité technologique de le faire, pourrait récupérer la chaleur qui se dégage de leur bâtiment?
Alors en fait là le chauffage, le développement, de récupération d'énergie, mm-hmm. c'est le fruit d'une réponse collective.
D'accord.
Puisque, en fait, les collectivités s'aperçoivent que c'est des installations qui sont nécessaires,
oui.
mais qui consomment énormément d'énergie. De récupérer cette énergie, mm-hmm. et un opérateur informatique ne peut pas le faire tout seul.
D'accord.
Et donc là, il y a en fait deux solutions. Soit en fait on récupère la chaleur, on la met sous vapeur, l'eau chaude, et comme dans un système de chauffage traditionnel, on va envoyer l'eau chaude vers des logements qui vont être chauffés de cette façon-là.
Okay.
L'autre système qui a été imaginé, en fait, c'est d'avoir des ordinateurs sous forme de radiateurs qui sont installés dans les logements. Il y a eu une expérience qui a été faite là, récemment dans des logements de la ville de Paris. Mm-hmm. Donc les ordinateurs ont été répartis dans les logements, ils servent de radiateurs, et ça permet aux gens de diminuer de manière conséquente leur facture énergétique. Mmh. Sans que ça coûte plus cher pour l'opérateur, voire moins cher, puisque ça, par exemple, il n'a pas de locaux à trouver, puisque c'est réparti dans un plan de logement existant.
D'accord.
Les ventilations sont réparties dans des logements existants. Mmh. Et puis, il y a aussi d'autres formes d'énergie qui commencent à se développer. Où la technologie est quand même assez bien maîtrisée, c'est les systèmes de chauffage par géothermie. Donc là, on a eu quelques déboires dans les années 70, mm-hmm. mais aujourd'hui, cette technologie elle commence à se développer pour faire du chauffage collectif. Mm-hmm. Donc, par exemple, sur Melun, il y a la moitié de la ville qui est chauffée par la géothermie. Plus récemment, il y a eu des travaux de modernisation de l'aéroport d'Orly, et qui va être chauffé en partie avec de la géothermie.
Ah, voilà. C'est intéressant.
Ça, c'est des systèmes qui sont assez intéressants parce que ça améliore le bilan carbone, mais c'est aussi de l'énergie qui est entre guillemets locale.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc on n'a pas à la transporter de l'autre bout du monde.
Voilà. Mm-hmm. Donc c'est aussi, puisque le gros enjeu pour la France, c'est quand même aussi de de réduire sa facture énergétique. On est, même si on a un gros parc de centrales nucléaires, on est quand même énormément dépendant du pétrole.
Oui.
Aujourd'hui, ça représente quand même presque les deux tiers du déficit de la balance commerciale. Donc, c'est quand même un enjeu important de favoriser la transition énergétique qui permet de créer des nouveaux emplois,
ben oui.
Mais aussi et en fait la perte de richesse liée à l'achat de comment dire d'énergie fossile. Donc ça c'est un enjeu qui est quand même important. Tout le monde n'a pas pris conscience de cet enjeu, mais les choses quand même les choses avancent.
Oui.
Voilà. Donc après ce qui est intéressant d'observer, c'est aussi que c'est la contrainte économique qui fait évoluer les acteurs. Donc et en matière d'habitat, de déplacement, c'est vraiment intéressant de voir cette évolution. Donc notamment sur les grandes villes, par exemple, où là, l'évolution, elle s'est faite par la prise de conscience des gens, mixée aussi avec une volonté des communes,
oui.
Des collectivités, qui ont mis en place des politiques. Par exemple, le développement du vélo à Paris,
oui.
C'est quand même un changement d'équipe municipale, donc qui a permis d'amorcer entre guillemets la pompe, c'est-à-dire de faire les aménagements pour inciter les gens à utiliser le vélo, et ensuite les gens aussi ont pris conscience que c'est un mode de déplacement performant, hein, et que ça pouvait constituer une excellente alternative à l'automobile
justement, voilà. C'est un des principes, je crois, de l'urbanisme écologique, c'est justement plus une mobilité plus écologique, donc de décourager les transports motorisés polluants et en privilégiant les transports verts. Donc, si vous mentionnez le vélo, il y a bien sûr la marche et les tramways. C'est vrai qu'on a des villes aujourd'hui qui ont des tramways super modernes et très efficaces, et puis d'autres qui sont un petit peu à la traîne. Donc, ça sera intéressant de voir cette évolution, justement.
Aujourd'hui, si on prend la ville de Paris, ce qui est intéressant, la ville de Paris est intéressante parce que son organisation est assez complexe en matière de déplacement. Et donc, en fait, la ville de Paris veut chasser la voiture, donc il y a un certain nombre de dispositions pour dissuader les gens d'avoir des voitures ou d'utiliser l'automobile. Donc, sur certaines choses, c'est très positif. Bon, par exemple, on a eu les tramways sur le boulevard des Maréchaux. On a eu le Vélib, Autolib aussi qui est mis en place. Hein, la multiplication des voies piétonnes. Mais cette politique-là, elle reste quand même avec un impact limité parce que la banlieue ne suit pas.
Ben
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'on ait une politique de déplacement qui soit cohérente, il faut raisonner à l'échelle d'une agglomération. Et en Ile-de-France, ce n'est pas ce qui se passe.
C'est pas possible.
Donc, il y a eu aussi, alors paradoxalement, de l'extérieur, ça peut paraître étonnant, mais quand on est dedans, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même un déficit d'investissement pendant plusieurs décennies. Et qu'aujourd'hui, l'organisme qui gère les transports, qui est le syndicat des transports de l'Île-de-France, le STIF, fait un gros effort en matière d'investissement depuis 2007. En fait, depuis que d'ailleurs c'est la région qui a pris la direction de cette institution. Mais la difficulté, c'est que les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles vont être visibles dans au minimum 2 ans, 5 ans ou 10 ans.
D'accord.
Donc, par exemple, la première décision qu'a prise le STIF en 2008, quand elle a été donc dirigée par la région Île-de-France, c'est d'investir plus de 150 millions d'euros dans du matériel neuf. Mais quand vous commandez le matériel, pour qu'il soit livré, ben, il faut attendre 2 ans, quoi, le temps de construire.
D'accord, oui.
Donc il y a un certain nombre de choses qui vont s'améliorer, mais sur le long terme. Mm-hmm. Avec donc là, par exemple, depuis 2008, il y a eu pratiquement 5 lignes de nouvelles lignes de tramway qui ont été mises en chantier. Mm-hmm. Donc on arrive à avoir une amélioration des transports dans certains secteurs, mais ça va mettre du temps.
Oui.
Voilà, parce que c'est quand même une grosse agglomération et qui est aussi, par son organisation administrative, facilite pas la mise en place de politiques uniformes à l'échelle de l'agglomération. Mmh. En province, en France, on n'a pas cette difficulté-là, puisque vous avez, quand on a une intercommunalité, elle va avoir la compétence en matière d'aménagement, donc aménagement des zones d'activité, politique du logement, transport en commun, plan de déplacement, voirie. Donc, elle a l'ensemble des compétences qui vont être, entre guillemets, dans la même main. Et donc, quand il y a une politique qui est menée, elle est cohérente.
Il y a plus de cohérence.
Toute l'agglomération. Mm-hmm. Voilà. Et donc, les résultats sont beaucoup plus. Sont beaucoup plus rapides et aussi les décisions sont prises beaucoup plus facilement. Mmh. Donc, par exemple, si on revient au tramway, en France, il y a beaucoup d'agglomérations de 150 000, 200 000 habitants
oui.
qui ont décidé de la création d'une ligne de tramway qui sont déjà opérationnelles. Mmh. Alors qu'en Île-de-France, on a des agglomérations, des intercommunalités de même taille. Mais qui ne peuvent pas développer des lignes de transport en commun de tramway parce qu'elles n'ont pas la compétence. Mmh. L'État n'aura pas donné la compétence. Mmh. Et donc, les choses avancent beaucoup plus difficilement en Île-de-France parce que l'organisation administrative est plus complexe.
Oui.
Et les pouvoirs sont plus. Les pouvoirs sont plus divisés entre différents. Ça ne facilite pas d'avancer quand vous avez une collectivité ou une institution qui ne veut pas avancer dans le même sens, les choses peuvent être très compliquées.
Oui, très souvent dans ce domaine d'ailleurs, on a aussi à relever le défi de la volonté politique, hein, que ce soit au plan local, régional ou national. C'est vrai que l'environnement, c'est quand même un domaine où, pour que tous les acteurs soient d'accord et avancent en même temps, c'est pas toujours évident. Mais enfin, je pense que les choses avancent, il y a du progrès par rapport à ce que c'est à la situation qu'on avait avant. Je crois qu'un autre principe de l'urbanisme écologique, c'est de voir comment l'architecture, les matériaux et l'énergie aussi sont. Il y a par exemple beaucoup plus de récupération de matériaux renouvelables ou de recyclage dans les écovilles ou les écoquartiers, par exemple ici au Québec, dans les écoquartiers on cherche des matériaux renouvelables, on recycle, etc. Est-ce que là c'est une tendance qui va se généraliser selon vous?
Alors ça oui, c'est une tendance qui va se généraliser. Alors la volonté. Donc le législateur a pris des dispositions maintenant il y a plus d'une dizaine d'années en France. Mmh. La France s'est aperçue qu'elle était très en retard par rapport à ses voisins européens. Mmh. Donc les choses évoluent, mais pas forcément aussi vite qu'on voudrait, parce qu'il faut convaincre les acteurs à tous les échelons
oui.
Pour qu'on ait vraiment une politique qui aille dans ce sens-là. Mmh. Hein. Et puis après, il y a aussi des difficultés techniques à résoudre. Mmh. Donc, par exemple, à un moment donné, on a un parmi l'amiante dans les constructions, hein, donc pour faire les ouvertures. Donc le matériau, ensuite, certains ont dit, on va essayer de le recycler. Mais ce qu'avait pas prévu le législateur, mm-hmm. c'est que le déchet, on ne savait pas quoi en faire. Donc la filière pour éliminer l'amiante, elle n'a pas été mise en place.
D'accord.
Et un certain nombre d'acteurs se sont dit, tiens, on va utiliser l'amiante. Donc ça, c'était dans les années 90. Mm-hmm. Puisque l'amiante est interdit, on essaie de recycler les déchets. Mm-hmm. d'amiante en mélangeant à l'enrobé. Et donc, on s'est rendu compte en faisant ça que les effets sur la santé étaient vraiment négatifs. Le produit n'était pas devenu inerte en étant mélangé à l'amiante, à l'enrobé. Donc, après, le législateur a interdit cette pratique-là. Mais en attendant, le mal, il était fait. Et aujourd'hui, les effets, par exemple, c'est pas compliqué parce que quand on s'aperçoit au moment de réfection de route que la route a été refaite avec de l'enrobé amianté, cet enrobé-là, on ne peut pas le réutiliser. Donc on se retrouve avec d'autres problèmes.
Justement, oui, le recyclage et les déchets, là aussi, c'est vraiment le défi de l'avenir, parce que finalement, l'idée ici qui est très répandue maintenant, c'est réduire, recycler bien sûr, mais réduire aussi, c'est-à-dire pourquoi consommer autant si c'est tellement problématique après de gérer les déchets.
Même si la prise de conscience a été tardive, on n'a pas trop de difficultés pour gérer ce type de questions. Parce qu'on a de l'habitat qui quand même dure beaucoup plus longtemps.
Et quand on parle du principe du pollueur-payeur, alors est-ce que on se réfère finalement plutôt aux entreprises qui devraient être responsables de gérer leurs déchets, ou bien est-ce qu'on parle aussi, est-ce qu'à moyen long terme, ça veut dire que chaque consommateur devrait aussi payer pour ses déchets? Par exemple, ici maintenant à Toronto, on paye 5 cents par sac en plastique quand on va faire ses courses au supermarché. Si on n'amène pas son propre sac recyclable ou un sac qu'on peut utiliser en toile de jute ou autre, on paye 5 cents par sac de plastique, que je trouve une très bonne façon de décourager les gens.
Alors, le système payeur pour nous, c'est plutôt un principe qui s'adresse aux entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise, on considère qu'à partir du moment où elle ferme un site, elle doit remettre en état le terrain, ou les bâtiments, surtout le terrain, pour que après n'importe quel type d'activité puisse s'installer.
Oui.
Donc, les limites, donc c'est un principe qui serait très bien. Les limites de ce système-là, c'est que malheureusement, quand les entreprises font faillite, elles ne laissent pas forcément de carte de visite, mais elles laissent des sites orphelins. Donc souvent, c'est des sites qui après se retrouvent bloqués. Et pour résoudre la situation, c'est malheureusement la collectivité ou l'État qui met la main à la poche pour dépolluer le site, pour en faire autre chose derrière. Parce que le site a un intérêt important en termes de localisation pour faire un autre projet. Le débat aujourd'hui est plutôt d'inciter les industriels la grande distribution, parce que c'est quand même elle qui est vraiment en grande partie maîtrise les marchés alimentaires, de faire moins d'emballage. À mon avis, la première source d'économie, elle est là.
Oui.
Après, sur les sacs plastiques, c'est Roselyne Bachelot qui a mené cette politique-là. Elle s'est faite plus sur la base de la négociation.
D'accord.
La négociation avec les bons acteurs, c'est pas le consommateur, mais c'est justement les distributeurs. Et là, à un moment donné, il y a eu la tentation de réglementer pour interdire les sacs plastiques.
Oui.
Et finalement, ça n'a pas été réglementé. Ça a été négocié avec un ordre de distribution. Et donc, les choses se sont faites progressivement. Donc là, la première étape, c'était de supprimer les sacs en caisse. Donc maintenant, les gens, ils achètent un sac qui est réutilisable.
Oui.
Ça a très très bien marché. Et là, donc, au 1er janvier prochain, non, c'est 1er mars 2017, les 5 quand les rayons fruits et légumes ont disparu, ils sont remplacés par des poches en papier.
D'accord.
Donc,
okay.
La mesure a été d'autant plus facile à mettre en place que souvent les petits sacs qui étaient donnés donc, par les supermarchés étaient des choses qui étaient importées. Mm-hmm. Donc on avait, on n'a pas eu de difficulté, je dirais, à couper à l'alimentation et à comment faire muter une activité industrielle. Comme c'était de l'import, bah, on arrête l'importation. On n'a pas à gérer les effets secondaires de la disparition plastique progressive. Quoi. La disparition progressive du plastique.
D'accord.
Donc ça, ça a été quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, qui est plutôt bien accepté par les gens. Quoi.
Par les consommateurs aussi, oui.
Ouais.
Ah, mais c'est intéressant, c'est tout un domaine. On a fait le tour pas mal aujourd'hui des principes, en tout cas d'urbanisme écologique. Et puis, ben, merci beaucoup pour votre expertise, Monsieur Moreau. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission.
D'accord, à bientôt.
À bientôt.